Texte 6, qu'est-ce que l'informatique ? Écrit par Gilles Dovec. En informatique, délimiter une culture générale peut sembler un défi, tant l'informatique semble constituée de connaissances en perpétuel renouvellement. Cependant, quand on dépasse cette écume sans cesse changeante, on s'aperçoit que l'informatique repose sur un petit nombre de concepts stables qui constitue le socle de la culture générale en informatique. Ainsi, le concept de langage de programmation, ainsi que les concepts de test, de boucle, etc., font vraisemblablement partie de la culture générale, mais tel ou tel langage de programmation, contingent et temporaire, non. L'informatique transforme chaque jour notre manière de vivre, notre manière de communiquer, notre rapport à la mémoire, la manière dont les états sont administrés, etc. La délimitation d'une culture générale en informatique doit donc aussi prendre en compte la nécessité d'éclairer ces changements, de permettre à chacun de les comprendre et d'accroître sa maîtrise sur eux et non d'en être le jouet. La science apparaît ici non seulement comme une quête désintéressée de connaissances, mais aussi comme un outil d'émancipation. Chaque jour, de nombreuses personnes, par exemple Alice, prennent une photo, la compressent et l'envoient par courrier électronique à un de leurs correspondants. Comment cette expérience peut-elle nous aider à identifier ce que sont les concepts fondamentaux de l'informatique? Et en quoi la compréhension de ces concepts peut-elle enrichir cette expérience? Premièrement, le concept d'information. Contrairement à une photo argentique de jadis, la photo prise par Alice est représentée par une suite finie de 0 et de 1. Mais le fait que les symboles utilisés soient les chiffres 0 et 1 est inessentiel. Ce qui importe est que l'image est représentée par une suite finie de symboles pris dans un alphabet fini. Pour obtenir une telle suite, l'image est tout d'abord discrétisée, découpée en petits carrés appelés pixels. Puis la couleur de chaque pixel est analysée. La quantité de rouge, de vert et de bleu est mesurée sur une échelle elle-même discrète. Et les nombres ainsi obtenus constituent une représentation de l'image. Quelles sont ici les idées importantes? La première est qu'il y a de nombreuses manières de représenter une image. Ce qui explique qu'il y ait de nombreux formats d'images, de sons, de textes, etc. Certains de ces formats sont publics, ce qui permet à chacun de lire ces images ou ces sons. D'autres sont privés, ce qui oblige à utiliser un logiciel particulier pour cela. Deuxième idée. Contrairement à une photo argentique, l'image numérisée peut être dupliquée parfaitement et à coût nul. Cette caractéristique générale de l'information affecte à la fois notre conception du secret et notre conception de la propriété. En effet, aussitôt qu'il aura reçu cette photo, le correspondant d'Alice pourra lui-même la partager et cette photo risque d'être ainsi rapidement accessible à des milliers ou des millions de personnes. La transparence devient la norme et le secret l'exception. Même pour les services secrets. Même si de nouvelles normes morales et juridiques émergent peu à peu, les notions de vie privée, d'intimité, de transparence, etc., se trouvent durablement transformées. La notion de propriété est également transformée. Le fondement traditionnel de la notion de propriété est la rivalité. C'est parce qu'un même sac de charbon ne peut pas être utilisé par deux personnes à la fois pour chauffer leur maison, autrement dit, parce qu'un sac de charbon est un bien rival, que la question de la propriété du sac de charbon se pose. Il est beaucoup plus artificiel d'utiliser cette même notion de propriété pour l'information duplicable par nature. Troisième idée. Il faut choisir de découper l'image en 1 million ou en 10 millions de pixels. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la représentation est fidèle. mais plus la quantité d'informations à transmettre, la taille du fichier, est importante. Cette opération de discrétisation semble propre à l'informatique. Mais à y regarder plus précisément, une pellicule argentique contient elle aussi un nombre fini d'ions argent. Et la photo argentique procède donc aussi d'un processus de discrétisation, même si c'est à une toute autre échelle. Même sans médium, les cellules photosensibles de notre œil sont aussi en nombre fini, et un rayon lumineux lui-même est formé d'un nombre fini de photons. Cette question de la distinction entre continu et discret dépasse donc largement l'informatique, même si l'informatique a contribué à la renouveler. Deuxièmement, le concept d'algorithme. Deuxième étape. Alice compresse sa photo avant de l'envoyer afin de réduire la quantité d'informations à transmettre, la taille du fichier. Pour cela, Alice utilise un algorithme, une méthode de compression. Si la photo d'Alice comporte, par exemple, une grande zone noire, cela se traduira sans doute par une longue suite de zéros dans sa représentation. On peut alors imaginer une seconde représentation dans laquelle la suite 00, 3 points de suspension 00, est remplacée par une information plus synthétique de points 1000 fois 0. On utilise alors un algorithme qui transforme la première représentation en la seconde et à l'arrivée, un algorithme inverse qui transforme la seconde en la première. Un algorithme est simplement une méthode, une recette, qui permet d'effectuer une tâche, ici, transformer une suite de 0 et de 1 en une autre. Un algorithme est une idée abstraite. Il se distingue d'un programme, qui est l'expression d'un algorithme dans un certain langage. La notion d'algorithme est une des plus anciennes de notre culture, puisque les scribes concevaient déjà des algorithmes pour effectuer les quatre opérations, calculer des héritages, etc., il y a plus de 5000 ans. L'invention de l'écriture semble même avoir des liens très étroits avec l'invention des premiers algorithmes symboliques. La notion d'algorithme s'est cependant beaucoup diversifiée depuis un siècle. Alors que les premiers algorithmes étaient séquentiels, toutes les opérations étaient effectuées l'un après l'autre par un unique calculateur, sont apparus des algorithmes parallèles dans lesquels plusieurs calculateurs se partagent le travail. Des algorithmes non déterministes dans lesquels le calculateur peut effectuer une opération ou une autre sans que cela soit spécifié. Des algorithmes probabilistes, des algorithmes distribués, etc. Des algorithmes sont utilisés non seulement pour transformer de l'information, mais aussi pour la communiquer à travers un réseau, tels les algorithmes de routage, qui définissent la manière dont une lettre est acheminée par la poste ou par un réseau jusqu'à la boîte aux lettres de son destinataire, ou pour stocker ou restituer de l'information, tels les algorithmes d'interrogation des bases de données ou d'indexation du web. La notion d'algorithme amène une nouvelle façon de répondre à une question formulée avec l'adjectif interrogatif « comment ?». Par exemple, il nous semble simple de déterminer si une image contient un visage ou non. Il suffit de la regarder. En revanche, il est difficile de concevoir un algorithme qui décide si une image contient un visage ou non. Cela est beaucoup plus difficile, par exemple, que de décider si un texte contient la lettre A ou non. Ce qui nous amène à nous demander comment notre œil et notre cerveau font pour repérer un visage dans une image. La réponse complète à la question « comment déterminer si une image contient un visage ou non ?» est un algorithme. Troisièmement, le concept de machine. Si les scribes de l'Antiquité concevaient déjà des algorithmes, ils n'étaient pas pour autant informaticiens. Car l'informatique n'a débuté que quand des machines ont commencé à être utilisées pour exécuter des algorithmes. Les machines qui transforment de l'information, les ordinateurs, sont toutes identiques. Il n'y a qu'un modèle d'ordinateur, car tous les ordinateurs peuvent effectuer tous les calculs. Cette notion d'universalité, définie par Alan Turing en 1936, est habituellement considéré comme l'acte de naissance de l'informatique. Mais les machines se distinguent par d'autres aspects. Quand un ordinateur est connecté à des capteurs et des actionneurs, il participe à un système embarqué ou à un robot. Quand il est connecté à d'autres ordinateurs, il participe à un réseau. De même qu'en réglant le grossissement d'un microscope sur le même objet, on voit un lion, une cellule ou un atome. Le même objet physique peut se décrire à différentes échelles. Une machine est un assemblage d'atomes qui s'assemblent en transistors, qui s'assemblent en portes logiques, qui s'assemblent en composants, qui s'assemblent en ordinateurs, qui s'assemblent en réseaux locaux, qui s'assemblent en un unique réseau mondial, Internet. Chacune de ces descriptions constitue une abstraction particulière du même objet physique qui souligne certains détails et en gomme d'autres. Distinguer les différents niveaux d'abstraction et penser à plusieurs niveaux à la fois est une des caractéristiques essentielles de la méthode de l'informatique. Enfin, le concept de langage. Utiliser des machines pour exécuter des algorithmes a demandé d'exprimer ces algorithmes dans des langues qui puissent à la fois être comprises par les êtres humains qui élaborent ces algorithmes et par les machines qui les exécutent. Comme ces langues sont très différentes de nos langues naturelles, nous avons décidé d'utiliser un autre mot et de les appeler des langages. Comme les notions d'information, d'algorithme et de machine, la notion de langage est antérieure à l'informatique. La notation musicale, l'écriture algébrique, la nomenclature chimique, avec leur spécialisation, leur vocabulaire restreint et leur grammaire simple mais sans ambiguïté, étaient déjà des langages. S'exprimer dans un langage est souvent perçu comme une fastidieuse contrainte par beaucoup d'utilisateurs des systèmes informatiques, même de systèmes relativement simples comme les tableurs, qui semblent s'obstiner à ne pas vouloir comprendre l'intention de ses utilisateurs. Comprendre ce qu'est un langage et en quoi il diffère d'une langue est pourtant une étape essentielle pour s'affranchir de la personnification des objets informatiques, qui est souvent le signe d'un manque de culture générale en informatique.